Vous êtes sur RTL.
RTL Matin, première édition, Agnès Bonfillon.
La 19e étape du Tour de France 2019 restera dans les annales. C'est tout simplement du jamais vu sur la grande boucle. À cause de la météo, les organisateurs ont dû stopper la course hier, laissant un gros flou pendant quelques minutes. Des athlètes un peu déboussolés, ne sachant que faire. Moment incroyable, Nicolas Georgerot.
À Val d'Isère, dans la descente de l'Iseran, il est 17h, c'est l'incompréhension la plus totale. Les coureurs s'arrêtent un à un dans la station, ordre de la direction de course, route impraticable. Emmanuel Hubert demande à son coureur Warren Barguil de monter dans une voiture.
À partir d'un moment où il y a épais de grêle, de glaçons sur la route ou de pluie, plus des éboulements, je veux dire là il n'y a pas photo, il faut arrêter la course.
L'organisation veut d'abord abriter les coureurs dans un palais des congrès tout proche, avant de se raviser. Julien Alaphilippe a perdu son maillot jaune, mais pas tout à fait son sourire, et fait des selfie avec le public. Guillaume, 19 ans, n'en revient pas d'être au milieu des coureurs déboussolés.
Je m'attendais pas à ça, quoi. Fallait que ça arrête là et nous on est là à ce moment-là, donc c'est génial. C'est génial.
Chacun cherche des vêtements pour se protéger du froid. Guérin Thomas, au chaud dans une voiture. Comme Egan Bernal, le nouveau leader, mange un sandwich. Romain Bardet, de son côté, approuve la décision de stopper la course.
Les organisateurs ont fait magnifiquement bien leur travail en prenant les circonstances, je pense, qui s'imposaient.
Et l'étape du jour est également escamotée. L'une des ascensions prévues, le Cormet de Roseland, est impraticable. Nouveau parcours, 59 km seulement à parcourir, dont les 33 de la montée vers Val Thorens.
Nicolas Georgerot pour RTL. Et normalement, cette avant-dernière étape devait se dérouler sur 130 km. Elle est ramenée à 59, Nicolas, vous le disiez. C'est donc une course de côte pour l'essentiel qui attend les coureurs aujourd'hui. Hier, rude journée pour les Français. Thibaut Pinot a dû abandonner à cause d'une blessure. Julien Alaphilippe, lui, a perdu son maillot jaune. La tunique est désormais sur les épaules du Colombien Egan Bernal.
RTL Matin, 7h02.
Pas compliqué à imaginer. Ce matin, certains d'entre vous ont le sourire au volant, alors que d'autres, beaucoup moins. Ce week-end est un nouveau chassé-croisé. Des vacanciers dans le sens des départs, attention, bison futé, voie rouge. C'est orange dans le sens des retours. Lorsque la circulation s'annonce chargée, comme c'est le cas aujourd'hui, il y a toujours ceux qui sont plus organisés que les autres. Bonjour Philippe de Maria.
Oui, bonjour Agnès.
Vous êtes le correspondant de RTL en Gironde. Et justement, Philippe, vous êtes sur l'aire d'autoroute de Cestas, au sud de Bordeaux, sur la 63.
Eh bien écoutez, difficile de trouver une place de parking ce matin sur l'aire de Cestas en direction du sud, c'est bondé. On aperçoit des vacanciers, ils sont assoupis, calés contre les vitres. Coffre ouvert, Albino, lui, mange une madeleine. Direction le Portugal, c'est sa patrie natale. Alors particularité pour Albino, il ne dort pas pendant tout son trajet. Il est parti de la Somme hier soir.
Je suis parti à 10h du soir.
Donc vous avez dormi là?
Non, pas du tout.
Mais comment vous faites pour tenir?
Bah, c'est une habitude. Pour les 3 heures, j'arrête 5 minutes, un quart d'heure, et puis après, je prends la route. Je m'en vais au Portugal.
La Somme, le Portugal, ça fait une trotte. Hein.
Ça fait exactement 1800 km.
Une petite balade?
Oui. Faut compter entre 18 et 20 heures.
C'est un moment important de l'année, le retour au Portugal, on va dire?
Oui. Oui, parce que mois d'août, bon, plus ou moins, on a la famille, puis pour nous, ça fait un peu de vacances, et puis en même temps, ça nous change un peu d'air, un peu, quoi. Jusqu'à la fin du mois d'août, parce que j'ai de la famille qui vont arriver vers le 18, c'est les vacances.
Albino, bonne route?
Ouais, merci.
Albino va donc affronter un trafic chargé, mais fluide, jusqu'à la frontière pour le moment, et une météo fraîche et pluvieuse, à laquelle, il faut bien le dire, on n'était plus trop habitués ces derniers temps.
Philippe de Maria, en direct pour RTL. Soyez prudents sur la route des vacances cet été. RTL avec M6 et la prévention routière vous accompagne pour préparer les trajets en toute sécurité. Christophe Bourroux, notre spécialiste auto, nous livre de précieux conseils. Et ce matin, coup de projecteur sur le toit de nos voitures et surtout sur ce que l'on y met, Christophe.
Surtout, vérifiez bien que vos vélos restent attachés à chaque pose. Un coup d'œil s'impose pour éviter pas mal de pépins, explique Christophe Ramon de la prévention routière.
Avec les vibrations du véhicule, on peut avoir des boulons qui se desserrent. Et malheureusement, chaque année, il y a des objets qui tombent sur les autoroutes. Donc à chaque pose, on va vérifier le bon serrage des boulons.
Et puis, adaptez votre vitesse.
On n'essaye pas de rouler absolument à la vitesse réglementaire. On préférera rouler plutôt à 110-120 km/h sur autoroute. Ça permet permet au chargement d'être moins sollicité par le frottement de l'air. C'est un moindre risque de perdre son chargement également et une meilleure tenue de route.
Même prudence pour les coffres de toit.
Avec la prise au vent, on peut avoir un incident potentiellement très grave. On peut avoir un arrachement, une rupture du coffre. Du coup, on va avoir tout le chargement qui va se retrouver derrière sur l'autoroute, qui va peut-être percuter un autre véhicule et provoquer un accident.
Enfin, n'oubliez pas d'enlever votre coffre de toit une fois arrivé sur votre lieu de vacances. Sinon, gare à la surconsommation de carburant qui peut grimper dans ce cas à 15%.
Christophe Bourroux pour RTL et je vous rappelle qu'à partir de 8h, nous ferons des points réguliers sur les conditions de circulation. RTL vous accompagne évidemment sur la route de vos vacances. Les buralistes sont en pleine mutation cette semaine. Le ministre des Comptes Publics, Gérald Darmanin, a annoncé qu'il serait bientôt possible de payer ses impôts dans les bars tabac. 5 régions testent déjà la vente de billets de train. Cela se fait sous forme de tickets de caisse en fait. Reste à convaincre les usagers. Plutôt dubitatif, Nicolas Bobby, en tout cas ceux que vous avez rencontrés à Chalonnes-sur-Loire. Chalonnes-sur-Loire qui fait partie de l'expérimentation.
À court terme, le guichet de la gare de Chalonnes-sur-Loire est condamné, mais pas question pour ces usagers d'acheter leurs billets chez le buraliste.
Je trouve ça absurde. On prend les billets de train à la gare, un point c'est marre, quoi. C'est tout. Et pourquoi pas acheter un lit au bureau de tabac ou chacun son boulot, quoi.
Voilà. Vous resterez fidèle à la gare.
Exactement.
Pour ce retraité des chemins de fer, c'est la disparition d'un service public.
Bah pour moi, oui, c'est une disparition. Parce que là, les gens, s'ils veulent le moindre renseignement horaire ou autre, le buraliste ne l'aura pas. Donc si c'est juste pour vendre du billet, bah non, autant garder une gare quand même. Moi, c'est tout mon ancien temps qui part. J'ai travaillé 35 ans dans la boîte. Donc c'est un peu dommage de voir tout disparaître comme ça.
Pourtant, la gare est à 2 km du bourg.
Bah, je pense que c'est un signe de plus qui montre que la SNCF est en train d'être démantelée en fait. Est-ce que les transports, c'est pas quelque chose de plus stratégique qu'un paquet de cigarettes?
Vous irez chez le buraliste?
Si je peux faire autrement, je crois que je n'irai pas.
Avantage non négligeable, le tabac est ouvert de 6h30 à 20h et l'on peut payer en menu monnaie.
En revanche, il n'est pas prévu que les buralistes prennent en charge les échanges et les remboursements. Reportage signé Nicolas Bobby pour RTL. En 2050, 4 millions de seniors seront dépendants en France. Une hausse de 60% par rapport au dernier recensement de 2015. 2,5 millions de personnes n'étaient plus autonomes à cette époque-là. Les projections de l'INSEE publiées avant-hier sont vertigineuses.
RTL Matin, 7h07.
Donald, la menace. Le président américain est furieux. Il prévient, le vin français pourrait bien être taxé. Un retour de bâton après l'adoption d'une mesure à l'Assemblée nationale qui vise les géants du numérique américain à payer davantage d'impôts dans l'Hexagone. La fameuse taxe GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon. Donald Trump menace donc la France de représailles. C'est très clair, écoutez.
Wrong thing to do. C'est une mauvaise chose. La France n'aurait pas dû faire ça. J'ai toujours préféré les vins américains aux vins français. Même si je ne bois pas de vin, j'aime simplement leur apparence. Les vins américains sont géniaux. Ils n'ont pas fait le bon choix en taxant nos entreprises. Nous taxons nos entreprises, pas eux. J'ai prévenu la France, j'ai dit « ne faites pas ça, si vous le faites, moi je vais taxer vos vins ». Donc en ce moment on travaille sur le sujet. Je viens de parler au président Macron, il n'aurait pas dû faire ça. La France avait l'habitude d'avoir l'ascendant sur les États-Unis, mais pas avec moi comme président.
Donald Trump qui s'est également exprimé sur le sujet via son outil préféré, le réseau social Twitter. Dans son message, il a carrément parlé de la stupidité d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, justement, il doit se rendre en Tunisie aujourd'hui pour assister aux obsèques du président Essebsi. Il reviendra ensuite au fort de Brégançon, dans lequel il a pris ses quartiers d'été avant-hier. Alors, vacances, c'est un bien grand mot pour un président de la République. Tout est fait d'ailleurs sur place hein, pour que cette pause estivale soit tout de même studieuse. Le fort de Brégançon, c'est une histoire passionnante et nous y reviendrons hein, sur l'histoire de ce fort avec notre invité tout à l'heure sur RTL à 8h47. Le journaliste Guillaume Daret a écrit un livre sur le sujet. Les images avaient provoqué une vague d'indignation. Souvenez-vous, fin 2018, en marge d'une mobilisation lycéenne à Mantes-la-Jolie dans les Yvelines, la police avait interpellé 151 jeunes. On voyait sur une vidéo ces derniers à genoux, mains sur la tête, pour certains menottés dans le dos. Des plaintes avaient été déposées. Eh bien, une enquête a été confiée à l'IGPN, à la police des polices, mais le parquet de Nanterre, la classe sans suite, ce dossier. Ce qui n'étonne pas Arié Halimi, il est l'avocat du syndicat lycéen UNL qui a saisi la justice.
C'est surtout un effet d'annonce de Madame la procureure de la République, puisque ça fait déjà un moment que nous avons saisi le doyen des juges d'instruction de Nanterre pour ouvrir une instruction dans la mesure où Madame la procureure de la République m'avait dit clairement qu'elle ne ferait pas une véritable enquête. Maintenant, nous avons une véritable défense avec 5 avocats prêts à en découdre pendant les temps à venir devant un juge d'instruction afin que ces enfants aient exactement la même justice que n'importe quel enfant, même s'ils viennent de Mantes-la-Jolie, même s'ils sont noirs, arabes, pauvres, issus de l'immigration. Je peux vous assurer que nous ferons tout pour que les personnes qui sont responsables de ce qu'ils ont subi, à savoir des violences graves, des actes d'une particulière gravité, soient poursuivies devant un tribunal.
Arié Halimi, joint par Romain Hougues pour RTL. Ce matin, il est question d'un autre avocat dans l'actualité. Éric Dupond-Moretti est visé par une plainte. Un de ses anciens clients lui reproche d'avoir reconnu la responsabilité d'un crime sans son accord préalable. Ce client s'appelle Janowski. Il a été condamné à perpétuité en octobre 2018 pour avoir commandité l'assassinat de sa belle-mère, la milliardaire monégasque Hélène Pastor, ainsi que son chauffeur. À l'époque, après 5 semaines de procès, cela avait été un véritable coup de théâtre lorsque Éric Dupond-Moretti avait déclaré, je cite, « Mon client est coupable, ces mots que vous attendiez de lui sortent de ma bouche ». Il a fallu 3 ans aux enquêteurs pour démanteler un vaste réseau de receleurs à Paris, des trafiquants de passeports et autres cartes d'identité. 8 personnes en tout ont été interpellées cette semaine, Alice Moreno, après la découverte de ces documents volés dans les sous-sols d'un grand hôpital du nord de la capitale.
Oui, dans un sous-sol interdit au public de l'hôpital Lariboisière à Paris, les enquêteurs ont découvert 130 cartes d'identité, passeports et permis de conduire volés, dissimulés là dans des gaines électriques, des tuyaux, cachés par des receleurs, des trafiquants qui rachetaient ces papiers dans le quartier voisin de Barbès. Un business illégal et très lucratif. Ils déboursaient par exemple 40 euros contre un passeport volé pour le revendre 2 fois plus cher à un seul et même homme, un individu d'une 40aine d'années, déjà sous les verrous. En prison, il s'occupait à son tour de faire écouler ses papiers vers la Turquie ou la Grèce, très certainement à des réseaux de passeurs. Chaque pièce revendue lui rapportait alors plusieurs milliers d'euros. Un autre homme, basé à Nice, écoulait aussi des papiers de son côté. Les enquêteurs estiment que 500 documents volés auraient ainsi été revendus en 3 ans. 8 personnes ont été interpellées lundi au petit matin en région parisienne et à Nice. 6 ont été mises en examen pour recel de biens et association de malfaiteurs.
Les informations signées Alice Moreno du service police-justice de RTL. Les recherches pour retrouver Steve, ce jeune homme de 24 ans disparu lors de la fête de la musique à Nantes, en marge d'une charge policière, eh bien, ces recherches se font désormais avec un sonar pour tenter de retrouver le corps dans la Loire. Dans la nuit du 21 au 22 juin dernier, plusieurs personnes s'étaient jetées dans le fleuve. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, assure que les conclusions de l'enquête de l'IGPN la semaine prochaine seront rendues publiques. Et puis terminons ce journal par du football. La reprise de la Ligue 1 est prévue le 9 août prochain. Vous le savez, Valérie et Peggy, je sais que vous adorez le foot. Oui. En deuxième division, la rentrée a déjà eu lieu au classement provisoire de Ligue 2. En tête, c'est Clermont qui s'est imposé 3-0 face à Châteauroux. Vous avez 2 petits yeux, Valérie, et je pense que vous avez suivi la rencontre.
Mais
c'est
oui.
pour cela.
Mais bien sûr.
Victoire également de Chambly face à Valenciennes, 1-0. De Rodez contre Auxerre, 2-0. De Troyes sur le même score, qui Bagnères 2-0. Donc, pour les autres résultats, égalité entre l'AC Ajaccio et Le Havre de partout, entre Guingamp et Grenoble, 3 buts pour chaque équipe. Toute l'actualité est évidemment à retrouver sur notre site RTL.